France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Le doux grésillement du reblochon qui fond, ce sont nos papilles qui fondent.
Et c'est vrai que ce reblochon, il a quand même une grande notoriété. C'est un vrai fromage de plateau. Et on a plaisir à le fabriquer.
Passion fromage, évidemment. Passion fromage. Et d'ailleurs, c'est le cadeau idéal pour séduire quelqu'un. Parce que pourquoi faire des grandes déclarations quand on peut faire une tartiflette? Faire fondre son cœur, ça commence par faire fondre du reblochon.
Vu qu'il est meilleur au printemps et l'été, et qu'on ne mange pas forcément de tartiflette à cette époque-là, on l'aime bien cru comme ça, ouais. Reblochon fermier, c'est le pastis verte. Ça veut bien dire que c'est fait dans chaque ferme avec le lait d'un seul troupeau.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. C'est un poids lourd des crèmeries et des rayons fromage des supermarchés. Le reblochon, ce trésor des Alpes, est même devenu en 2021 le deuxième fromage AOP de France le plus produit, juste après le comté, détrônant pour la première fois le Roquefort, qui était depuis toujours la deuxième AOP de France. Quelles sont les origines de ce fromage de vache? À quoi doit-on son phénoménal succès? Pourquoi le préfère-t-on l'hiver que l'été, aux grandes dames de la filière? Et au fait, le reblochon est-il un piège à tartiflette ou peut-on le mitonner autrement? Autant de questions que l'on va se poser avec notre invité du jour, Pierre Coulon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre spécialiste des fromages et des produits laitiers dans l'émission. Vous avez signé d'ailleurs un livre référence qui peut être utile à tous nos auditeurs et auditrices, Le bon savoir du fromage aux éditions First. Il connaît un joli succès en librairie d'ailleurs, hein.
Oui, carrément, il vient d'être réédité.
Et pour cause, c'est une encyclopédie très fouillée sur les fromages. On a allumé le four dont on va déguster et on peut dire que des plats sont en train de gratiner. On n'en dit pas trop, mais il y a quand même une grande spécialité qui commence par un thé.
Oui, et ça commence à sentir le reblochon là.
Voilà, il va y avoir une battle de tartiflette, crème ou pas crème dans la tartiflette. Tout le monde n'est pas d'accord. On va effectivement se mettre sur la gueule. Non, pardon, on va en discuter tout à l'heure. Dans les fauteuils des chroniqueurs, Zazie Tavitian et Dominique Hutin. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Zazie, vous allez bien?
Oui, je vais bien. Moi, je suis allée parler du prix du lait avec des productrices laitières dans l'Orne.
Voilà, on n'est pas tout à fait en Haute-Savoie.
Non, on est un peu plus au nord.
Question de lait bio et de prix du lait bio. On aura d'ailleurs évidemment la réaction à chaud de notre spécialiste des fromages, Pierre Coulon. Dominique Hutin.
Moi, je vais vous emmener vers les nouveaux territoires du goût et nous allons y voyager en amphore.
En amphore. Il est fort sur les amphores et les vins en amphore qu'on va goûter avec vous, Dominique, tout à l'heure. Si vous avez des questions ou des remarques sur le reblochon, vous avez deux options pour réagir en direct dans cette émission. Un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou bien le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter pour accéder à tous les contenus de notre émission, nos podcasts, nos recettes de tartiflettes avec ou sans crème, nos infos pratiques, nos meilleures adresses, le chemin est tout tracé. Franceinter.fr, à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Vous connaissez la tradition dans cette émission, juste avant de parler reblochon, une petite dégustation à l'aveugle. Vous avez sous vos micros des pots surprises. Notre réalisatrice Laurent Thomas les a cachés dans leurs chaussettes. À chacun, une recette différente. J'aimerais connaître vos impressions. Allez, on plonge la cuillère, on me dit ce qu'on en pense.
Ça fait un peu peur comme ça.
C'est un peu vert. Hein.
Alors, normalement, elles ont vocation à être plutôt chaudes. Là, vous ne l'écoutez pas forcément dans les conditions.
On n'a pas les mêmes, d'accord.
Optimales. Non, vous n'avez pas les mêmes.
Moi, j'ai du champignon dedans.
Bravo. Alors, Zazie, on commence avec vous. Champignon, vous y êtes tout à fait. Là, vous brûlez.
Après, je
vais vous envoyer un petit indice, comme on est sur une émission fromagère. Il y a un petit fromage d'identité différente dans chacun de vos pots.
Moi, j'avoue sécher, mais est-ce qu'on n'aurait pas une base de lentilles corail ou quelque chose comme ça pour...
On n'est pas très loin, ce pourrait, mais pas tout à fait.
Vous essayez d'être gentil avec moi, c'est pas ça du tout, en fait.
Non, mais il y a un univers aromatique qui me plaît bien.
Bon, je parlais plus de la consistance, en fait, même.
Alors moi c'est vert,
il
y a de l'échalote, de l'épinard.
Bravo, épinard, ouais. Échalote, bien joué.
Il y aurait de la crème pour moi.
Bien joué, crème, ouh ouais. Mais attendez, c'est un sans faute.
Bah, alors,
il y a également un fromage que vous êtes censé aimer dans sa version AOP.
Ouais, alors là, c'est vrai, franchement, c'est compliqué. En plus, ah non, ce serait reblochon.
Non. Non mais vraiment pas très loin. On est dans un fromage du Jura.
Au comté.
Avec une texture molle.
Un morbier,
bien joué. Morbier, okay. Vous l'avez dit ensemble, morbier AOP, Pierre Coulon, épinard frais. Crème fraîche, échalotes, morbier AOP, huile de tournesol, sel et piment d'Espelette, vous avez été très fort, Pierre. Zazie, on était à la crème de champignons, bravo.
J'ai pas le fromage.
Un petit bleu, petit bleu un peu crémeux.
Ouais, maintenant je l'ai.
Fourme. D'Ambert.
Fourme d'Ambert, pardon.
Voilà, non, mais c'est très bien. Fourme
d'Ambert.
Je suis
en train de manger.
Et alors Dominique, vous, on était sur...
Moi j'ai une petite épice douce en plus.
Une cucurbitacée, absolument, parce que cette courge potimarron a la réputation d'être un peu, d'avoir de développer un peu des notes de muscade. Donc effectivement, il y a une petite trame épicée, crème fraîche, oignon, chèvre frais, et puis on vous a évidemment réservé, ça c'est Fabrice Rivaud qui a dit tu peux pas ne pas lui mettre ce pot puisqu'il y a une petite touche de vin blanc aussi.
Ah oui, ok, pour la fraîcheur, l'acidité, voilà. Très bien, bravo.
Merci Fabrice. Vous pouvez enlever les chaussettes, les sauces... Papillon, est-ce que vous aimez ?
C'est vraiment très bon. Moi, j'ai pas l'univers du fromage, mais alors après tout le reste ensemble, c'est vraiment chouette. Ça donne envie d'en mettre dans plein d'endroits.
Une nouvelle génération de pesto et de sauces pour accompagner, alors tout ce qu'on veut, du pain grillé, une viande, un poisson, des légumes, des féculents comme des pâtes ou du riz. Ces sauces sont l'invention de deux entrepreneurs trentenaires passionnés de gastronomie, Alexandre Juvin et Mathis Pellerin, qui sont partis du constat que toutes les sauces et les pestos de l'agroalimentaire, c'était pas très reluisant en fait. Grosso modo, dans l'industrie, pour limiter les risques, eh bien nos fabricants industriels stérilisent les sauces à 120 degrés, autant dire qu'il les matraque. C'est vraiment une température qui fusille les qualités nutritionnelles et gustatives des sauces. Et du coup, pour compenser cette perte de qualité, nos industriels ajoutent des additifs, des agents de texture, des arômes. Chez Sauce Papillon, les pestos sont 100% crus et les sauces sont maintenues uniquement 30 minutes à leur température de cuisson pour réaliser ce qu'on appelle une pasteurisation douce, ça veut dire que tous les nutriments et les goûts sont préservés. Les ingrédients, c'est super transparent, vous pouvez regarder sur les étiquettes. Des produits exclusivement frais, de saison, 100% biologiques, à majorité français, à de rares exceptions. On trouve un peu de feta grec de temps en temps ou du poivre malgache sur certaines recettes. Et surtout, aucun amidon, protéines isolées, additifs, conservateurs, sucre, arômes ajoutés. Et c'est vraiment des sauces tout à fait naturelles, entièrement biologiques, avec des produits, des produits les plus locaux possibles. Les sauces papillons sont fabriquées pas très loin de chez vous, Pierre, dans le 18e c'est arrondissement, vrai. Porte de la Chapelle. Et ils sont déjà disponibles dans 45 points de vente en Île-de-France et bientôt, on l'espère, dans toute la France. Beaucoup en verre évidemment, zéro plastique dans les emballages et des étiquettes en papier recyclé. Voilà, entre 6,50€ et 7,90€ le pot, ça reste honnête. Les sauces papillons, toutes les infos sur franceinter.fr à la page on va déguster derrière la vitre de la régie pour préparer, mitonner et gratiner cette émission. Laurent Thomas, Gilles Gaillard, Fabrice Rivaud, on vous sert le reblochon sur un plateau mais aussi tout chaud. Juste après Fractals de Bess Orton, c'est le choix de Djoubaka. Bon appétit sur France Inter. No way to turn, and there's no one around. Smiles in the
this dream, but when anything happens, it doesn't just happen to me.
Une émission tout reblochon et je vous propose de prendre le bon air des montagnes dans les coulisses justement de la fabrication d'un excellent reblochon que j'ai découvert à l'occasion d'un séjour en Haute-Savoie. Direction le massif des Aravis, chez Karine et Michel Fournier, ce couple produit un reblochon fermier et biologique à la ferme du Jalouvre. On est au Grand Bornand, j'arrive avec mon micro au moment de la traite du soir.
Bienvenue au Grand Bornand. Allez, on va aller voir les vaches. Donc là, c'est l'heure de la traite. Alors, pour l'AOP Reblochon, nous avons le droit à trois races. Donc, nous avons de l'Abondance, des Montbéliardes, le droit aussi à la Tarine.
Et là, vous avez les trois?
On a les trois races. Donc, elles sont au chaud, nourries au foin. Début mai, elles sortent. Et après, on part en alpage. Voilà Michel, mon époux.
Bonjour.
Bonjour.
Traite mécanisée.
Oui. Ça se passe le matin et le soir à 12 heures d'intervalle, 5 heures le matin, 5 heures le soir.
Donc chaque traite est transformée tout de suite après. On fabrique et le matin et le soir. Ça fait partie du cahier des charges du reblochon. Pour ce qui est de l'appellation bio, donc ce qui intègre le cahier des charges en plus, c'est tout ce qui est complément alimentaire. Donc nous, c'est exclusivement de la farine bio. On essaye d'être autonome au niveau du fourrage. On arrive à acheter du foin bio encore, donc ça va. Et l'élevage aussi. On élève tout nouveau, en fait. Sur le canton de Thônes, sur 130 producteurs à peu près, on n'est que 3 en fermiers bio. C'est dommage parce qu'on a une très forte demande au niveau du consommateur et nous-mêmes, on n'arrive pas à fournir.
Une fois que vous avez récupéré le lait de la traite, vous allez passer à la fabrication du fromage. Et là, en quelques étapes, ça se passe comment ?
Donc, on va ajouter cette présure à la fin de la traite. On va attendre une quarantaine de minutes. Et ensuite, nous allons commencer le décaillage. Donc le décaillage, c'est avec un tranche-caillé. Hein, c'est comme un râteau avec des fils inox. On va couper le fromage en grains. Ça va sélectionner la matière grasse, donc le petit lait va ressortir. Et on va y goûter tout ça dans nos moules. Et ensuite, le petit lait s'écoule des moules et on arrive à avoir la tome blanche. Beaucoup ici la mangent le soir avec une salade, fraîche, hein, forcément, pas salée, donc chacun agrémente à son goût. Par contre, une fois qu'elle est salée, hein, on ne la consomme plus jusqu'au moment de la maturation du reblochon.
Le reblochon est un fromage à croûte lavée.
Oui.
Ça signifie qu'on lave le fromage pendant l'affinage.
Donc tous les jours, on va tourner le fromage sur des planches en épicéa. Et à partir d'un moment, ça va se mettre une pellicule, ce qu'on appelle le GO, le germe organique. Et à ce moment-là, on va le passer dans une machine avec des brosses à l'eau claire, tout simplement. On ne le fait qu'une fois.
Et l'affinage se fait ailleurs.
Voilà, alors pour notre part, on travaille avec la coopérative du Reblochon de Thônes, le Fartot. Donc on va dire à 10 jours, ils prennent nos fromages et eux les mettent en cave à ce moment-là.
Le reblochon fermier et bio de la ferme du Jalouvre, c'est vraiment une très belle expérience. Un chalet à 1200 mètres d'altitude où j'ai eu la chance de déguster ce reblochon avec vue sur la chaîne des Aravis quand même. Il y avait un spectacle, un cirque enneigé absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, Pierre Coulon, la première chose qui m'a intrigué dans le fromage de Karine et Michel Fournier, c'est que le reblochon n'avait pas une croûte orangée comme de nombreux reblochons, mais une croûte plutôt couleur ivoire, couleur crème. Pourquoi y a-t-il des reblochons qui sont orangés, d'autres qui sont blancs ?
Alors ça, c'est vraiment à la discrétion du producteur, c'est-à-dire que l'orange est plus vendeur. C'est ce que me disait l'AOP Reblochon. Donc en fait, les gens vont utiliser soit du carotène, soit du rocou. Le rocou, c'est cette épice qui sert à colorer. Après, aujourd'hui, les mélanges de rocou contiennent beaucoup de choses en fromagerie. Donc on a pas mal de producteurs qui s'en défont et qui assument ce côté beige crème. C'est celui même sur le plateau hein, que je vous ai ramené pour pas être sur quelque chose de trop flashy qui est pas spécialement nécessaire. On peut aussi avoir des gens qui utilisent de la terre d'ocre. C'est comme ça qu'on faisait autrefois. La difficulté, c'est que c'est pas considéré comme un ingrédient. Donc, techniquement, on n'aurait pas trop le droit de le mettre sur le fromage. Mais ça serait une manière naturelle de le colorer, quoi.
Ces colorants naturels, bêta-carotène, roucou ou terre d'ocre, ne sont pas interdits en bio, soyons clairs. C'est juste à la discrétion, comme vous le dites, des producteurs.
Oui, clairement. Après, je pense que trouver du roucou bio, ça doit être assez galère. Carotène, ça reste un produit, c'est pas du jus de carotte, quoi. On est sur un produit qui est extrait, qui est transformé, qui est un peu chimique. Je comprends que quand on est dans un cadre aussi dingue que le massif des Aravis, on n'ait pas non plus envie de peindre ces reblochons pour qu'ils soient hyper flashy, quoi.
Donc en fait, cette couleur orange, c'est strictement esthétique. Il n'y a pas, il y a pas de fonction de cette substance dans l'affinage du fromage.
Non, puis aujourd'hui, hein, non. Quand on voit les reblochons comme ça, ils sont très très beaux, très bien affinés. Ils n'ont pas besoin de ressortir spécialement un peu plus. Hein.
Le reblochon est l'un des fromages les plus charismatiques de France. Hein. C'est vrai que ça fait quand même quelque chose de voir que cette AOP est passée devant, Roquefort, qui historiquement a toujours été la deuxième appellation en termes de volume juste après le Comté. Et là, c'est le reblochon qui monte sur la deuxième place du podium en termes de volume.
C'est le reblochon qui monte avec ses 16 000 tonnes. Alors, 16 000 tonnes, on aura 2 000 tonnes fermières dedans, donc fabriquées à la ferme, avec environ 120 producteurs. Et après, le reste, ce sera fabriqué en usine.
Eh bien, on va essayer de comprendre justement la différence entre fromage fermier et fromage laitier. On a compris que le reblochon fermier, comme celui du Jalouvre que l'on vient d'entendre, c'est la minorité. Et il s'agit donc d'un fromage qui est fabriqué avec le lait de la propre ferme.
Voilà, il n'y a pas d'achat de lait, c'est-à-dire qu'on ne mélange pas les laits des exploitations. Donc on a vraiment une typicité de fabrication. Et surtout, le reblochon fermier est fabriqué deux fois par jour. Donc ça, c'est un travail énorme de traite et de fabrication de fromage. Donc des journées qui commencent à 5h et qui finissent à 21h, alors que notre reblochon laitier, on va avoir une fabrication par jour avec des laits qui vont être très mélangés. Donc du coup, on va gommer un peu les typicités parce qu'on va mélanger les exploitations.
Concrètement, comment ça se passe pour le reblochon laitier? Il y a une collecte de lait qui s'opère dans différentes fermes.
Les artisans ou les industriels vont aller chercher le lait dans les différentes fermes. Le lait est refroidi aussi, alors que quand on fabrique en fermier après chaque traite, on ne refroidit pas le lait, donc on n'y touche pas du tout. Eux vont le refroidir, et alors laitier, c'est plus automatisé. Pour les reconnaître, le reblochon fermier, il a toujours une petite plaque de caséine qui est verte, donc c'est une plaque en poudre de lait. Le laitier, il aura une plaque rouge. Et en fait, le laitier est quand même trois fois moins cher que le fermier, parce que c'est très automatisé. Pour bien connaître les producteurs de reblochons, je sais qu'à la ferme, on est quand même sur des opérations manuelles qui demandent pas mal de temps, plus cette histoire de fabrication deux fois par jour. Ça, j'insiste, moi je suis fromager, j'y retournerai pas à 18h le soir, quoi. Je suis content d'avoir plié mes journées.
Cette petite pastille verte, s'il s'agit d'un reblochon fermier, rouge, s'il s'agit d'un reblochon laitier, est donc incrustée dans la croûte du fromage.
Elle est posée sur le fromage avant le pressage, en fait. Comme ça, elle va adhérer à la peau, et on la voit hein, à la dégustation. Hein. Donc, on peut la manger, il n'y a pas de problème. Ça a pas un intérêt de dingue, mais on peut la manger sans souci.
Vous nous avez apporté justement un reblochon fermier que vous commercialisez à la laiterie de Paris. J'ai pas signalé votre adresse évidemment, mais vous êtes quand même fromager dans le 18e arrondissement.
Et dans le 19e.
Et dans le 19e aussi. Oui. Et là, quel fromage fermier vous distribuez?
Alors là, c'est un reblochon fermier. On tourne avec différents producteurs, donc soit des affineurs qu'on aime beaucoup, comme la maison Paccard. Oui. Et là, c'est la coopérative de Thône, justement, qui fait que du reblochon fermier.
On a compris dans le reportage que certains reblochons sont fabriqués à la ferme avec donc le lait de la propre ferme, du cheptel qui appartient au fermier, mais ces fromages peuvent être affinés ailleurs qu'à la ferme. Alors là, ça se complexifie. Est-ce qu'on peut encore parler de reblochons fermiers lorsque ces reblochons partent effectivement dans un autre endroit spécialisé dans l'affinage de ces fromages?
Alors, c'est un vrai débat parce que affineur, c'est une vraie profession. Donc moi, les gens avec lesquels je travaille sont des gens qui récupèrent des fromages très jeunes, à 5 jours, les retournent tous les jours, travaillent sur planches de bois, ce qui n'est pas obligatoire dans l'appellation, et s'occupent de la commercialisation des produits. Donc on a des, comme on fabrique deux fois par jour, on a pas mal de producteurs qui ne veulent pas s'embêter avec en plus l'affinage et la commercialisation. Mais attention, c'est aussi comme ça que le loup est rentré dans la bergerie quand Lactalis a racheté la maison Pochat. Et du coup, il y a quand même un décalage en tant que consommateur. Quand on achète un produit fermier où on fait l'effort de et où on veut faire vivre un petit système, on se retrouve finalement à faire vivre un géant laitier. Donc ça, c'est souvent critiqué, notamment par l'Association nationale des producteurs de lait à la ferme, qui dénonce tous les ans le fait qu'on garde le mot fermier, même si c'est affiné en dehors de la ferme. Alors c'est vraiment un débat à double tranchant. J'ai du mal à me prononcer sur le côté pour ou contre.
On a justement, vous évoquiez justement Lactalis qui a racheté il y a quelques années cette structure mythique, cette maison mythique qui est Pochat. Ça avait fait du bruit dans le Landerneau à l'époque, on peut le dire. Beaucoup de réactions de nos auditeurs justement sur l'appétit de ces géants laitiers. On sait que dans de nombreuses appellations françaises, les géants laitiers rachètent des fabricants, voire finissent par phagocyter certaines appellations, assouplir le cahier des charges. Leur intention, sans leur taper dessus gratuitement évidemment, c'est d'augmenter la production, la productivité au détriment de la qualité. Est-ce que le reblochon est menacé? Est-ce qu'il y a des menaces? Est-ce
non, que parce qu'en fait, tout va dépendre de la manière dont sont construites les appellations et dont elles organisent leur vote. Aujourd'hui, comme on a un opérateur égale une voix et qu'on a une appellation pas mal fermière, ils vont pas réussir spécialement à bouger le cahier des charges. Mais ça, c'est vraiment lié à chaque organisation d'appellation.
Le reblochon, c'est-à-dire que leur taille ne préjuge pas de leur poids dans
ça
l'appellation.
Ça n'a rien à voir avec le volume qui est fait finalement. finalement. Donc s'ils sont leaders aujourd'hui depuis qu'ils ont racheté Verdanais, sur le reblochon laitier, ils vont pas pouvoir modifier tout ça parce que face à eux, il y a aussi pas mal d'indépendants encore dans la filière.
Mais ils pourraient se battre pour, par exemple, faire en sorte que le lait thermisé ou pasteurisé soit autorisé.
Oh, alors qu'aujourd'hui, ils ont assez à faire dans leur usine de la Manche en fabriquant du fromage à tartiflette, hein, en jouant des deux côtés. Ils ont les deux outils. Hein.
C'est ça. Donc pour l'instant, on peut dire que c'est un fromage qui se porte bien, pas de risque, qui correspond évidemment à une véritable identité de terroir. On va bien sûr en parler, mais juste avant, la petite histoire du reblochon, parce que là, alors, elle est vraiment truculente, va-t-on dire, puisque ce fromage serait né d'une petite fraude.
Une petite fraude, oui. En fait, il faut comprendre que dès le XIIIe siècle, les moines arrivent et encouragent le défrichage de la montagne. La France a besoin de bois à l'époque pour les navires, pour la construction. Et du coup, apparaissent les prairies d'alpage qui font que les vaches vont donner pas mal de lait. Alors les moines font pas que faire défricher. Au bout d'un moment, ils viennent se servir sous forme d'impôt. Donc, ils passaient dans les fermes et plus la ferme produisait du lait, plus ils demandaient d'argent. Donc du coup, ce que faisaient les producteurs, c'est qu'ils ne trayaient pas totalement les vaches le jour du contrôle, et une fois les moines partis, dès qu'ils étaient descendus dans la vallée, bim, ils retrayaient les vaches. Or, en patois savoyard, traire, ça se dit blocher. Donc reblocher, c'est un peu en hommage à cette petite astuce pour payer moins d'impôts.
C'est le petit cadeau personnel que l'on se faisait discrètement, en loose day, pourrait-on dire.
Exactement.
Et le reblochon, c'était donc le fruit d'une deuxième traite plus ou moins illégale.
Voilà, et puis c'était surtout une manière de payer moins d'impôts, il faut les comprendre.
La réputation de cette deuxième traite qui donnerait des laits plus riche, elle est avérée?
Alors, historiquement, en fait, c'était surtout le jour du contrôle qui trahiait deux fois, hein, mais le reblochon, sinon, ils l'ont toujours fait. Mais la fin de traite est effectivement plus riche en matière grasse, en matière protéique que le début de la traite.
On pourrait presque dire qu'ils gardaient le meilleur pour eux-mêmes,
Ils gardaient le meilleur pour eux-mêmes le jour du contrôle. Le fêtait ça le soir.
Reblochon, né d'une petite fraude à la française, voilà, pour ne payer, pour échapper aux impôts. Et c'était le petit fromage que l'on, se fabriquait comme ça pour ses besoins personnels. Venons-en à une question. Alors là, ça réagit aussi beaucoup. Zazie peut en témoigner sur reblochon et agropastoralisme. On aurait tendance à penser que le reblochon, finalement, se fabrique, malgré ses énormes quantités, en harmonie avec son environnement, son écosystème, et en même temps, ça râle, à juste titre, sur le mail de l'émission ainsi que le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Bah, vas-y.
Oui, je suis assez étonnée parce qu'il y a plusieurs auditeurs qui nous parlent de massacre des bouquetins qui seraient liés à la production de reblochon.
Et ouais, eh ben ça je m'y attendais pas.
Bon, bah, mais non, mais c'est quand même une vraie question.
En fait, aujourd'hui, on a des familles qui font du reblochon en montagne et qui, du coup, fabriquent et entretiennent ces montagnes. Il faut comprendre que la présence des vaches sur les prairies, ça fait qu'on peut, par exemple, skier l'hiver parce qu'elles vont manger l'herbe, elles vont entretenir. Donc, en fait, dans le prix d'un reblochon fermier, il y a une partie de votre forfait, quoi. Si on les dégageait, on fermerait une grande partie des stations.
Et ça, il faut quand même le signaler aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces animaux, et pas seulement que pour le reblochon, d'ailleurs, oui, c'est aussi valable dans le Beaufort.
Entretiennent tous les domaines.
Mais
alors le problème, c'est qu'elles sont pas seules, parce qu'on a une faune sauvage qui est là depuis bien plus longtemps, et notamment les bouquetins. Or, les bouquetins sont porteurs sains d'une maladie qui s'appelle la brucellose. Et la brucellose, c'est une zoonose en France. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir de vaches qui ont la brucellose, parce que c'est une maladie qui pourrait se transmettre à l'humain. Donc du coup, on a des troupeaux qui, parce qu'ils cohabitent avec les bouquetins, on chope la brucellose, ce qui est compliqué pour les éleveurs, mais ce qui est compliqué aussi, c'est que du coup, on pète de la faune sauvage. Donc, c'est très dur comme débat, parce que l'État demande souvent des abattages de bouquetins, mais qui sont massifs. Hein. On voit que c'est pas un ou deux bouquetins qui se baladent. Hein. Là, on parle de plusieurs centaines. Mais d'un autre côté, il y a aussi un système à protéger qui est l'agropastoralisme. Donc, c'est compliqué. C'est un peu comme le loup, c'est un peu comme l'ours. La cohabitation avec le sauvage, aujourd'hui, des fois, ça peut poser des problèmes.
Et on se gardera bien, évidemment, de trancher le débat aujourd'hui en 5 minutes. On sait que c'est un débat complexe.
Mais après, il faut en avoir conscience
les
aussi.
Les producteurs y prennent part. Les défenseurs, évidemment, de la faune sauvage en Savoie et en Haute-Savoie également. Puisque, petite précision sur la zone, très important, la zone de production du reblochon.
Haute-Savoie, une partie de la Savoie, est essentiellement autour de Thônes, dans la zone qu'on appelle le massif des Ravi.
Sachant que c'est son berceau de naissance, le massif
oui,
des
Oui, c'est là où il serait né, ouais.
Vous prononcez pas le S. Hein,
non. J'évite ouais. Depuis l'émission, on a dit Salers. Hein.
Oui.
Voilà, maintenant j'ai fait gaffe à mes S.
Ça s'écrit Aravis, mais effectivement ça se prononce Aravis, sinon on passe vraiment pour un sale parisien.
Exactement.
On commence avec une première recette, preuve que le reblochon, évidemment, peut s'incruster dans des recettes chaudes. On a envie de se faire du bien, surtout quand on est à la montagne, mais même en ville aussi, hein, ça marche. Alors la tartiflette, c'est pour la seconde partie de cette émission. Là, qu'est-ce que vous nous avez préparé, Pierre Coulon?
un repas qui se fait en 3 minutes, un repas de feignant, un repas du lundi soir, du dimanche soir. On prend une pâte feuilletée, on met un reblochon au milieu. Alors moi, c'est fermier, j'ai des attachements à ça. On referme, 20 minutes au four. Alors, ça déborde un peu. Là, c'est vrai que quand je l'ai fait ce matin, j'ai une petite pensée pour mes voisins qui sont réveillés avec cette odeur à 7h30. Ça coule un peu, mais ça, avec une salade, c'est le repas le plus simple du monde.
Ça passe très bien, moi, pour mon petit déjeuner, c'est
qu'est-ce
parfait.
Que c'est bon. On obtient, on pourrait le dire, un petit tsunami ou une petite inondation de reblochon bien crémeux, mais qu'est-ce que c'est bon. Quand on le voit comme ça, ce reblochon, on a l'impression qu'il est super gras. Or, vous avez des révélations à nous faire.
Ah bah ça, on va avoir le débat, parce qu'on va avoir le débat quand on va parler tartiflette, notamment. Mais le reblochon, non, comme il est mou, il va nous ramener une texture très crémeuse, mais en fait, il est très riche en humidité, et donc il est beaucoup moins gras. Par exemple, le reblochon, c'est environ 320 calories pour 100 grammes.
Ce qui n'est pas énorme pour un fromage.
Si on regarde la raclette, 350, 360, si on regarde le comté, on est plus 380, 400. Plus un fromage est sec, plus il est gras et plus il est calorique.
Mais on a l'impression que ce côté onctueux, c'est effectivement du gras, alors qu'en fait, c'est lié
c'est
à son taux d'humidité.
C'est ça, c'est de l'eau.
Et vous m'avez même dit en préparant cette émission que le reblochon était plus maigre que la mozzarella.
Ouais, alors je débat depuis, mais on n'est pas loin du tout. À 20 calories près, on y est.
Dominique Hutin, est-ce qu'il est prêt ?
Il est prêt.
Juste avant, je vous confie une toute petite recette. C'est la piscine de reblochon que j'appelle le reblochon. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo sur franceinter.fr à la page On va déguster. Vous prenez un reblochon et vous le scalpez. C'est-à-dire que vous enlevez le disque de pâte, le disque de croûte juste au-dessus. Vous l'emmaillotez un peu quand même dans un papier sulfurisé avec un petit bandeau, une petite corde alimentaire. Vous mettez ça au four sous la salamande, vraiment sous le grill de votre four pendant 10-15 minutes à 180 degrés et ensuite bah vous faites une véritable petite fondue avec le reblochon, exactement comme le Mont d'Or finalement. Vous pouvez tremper des morceaux de pommes.
Avec un peu de vin aussi.
Des morceaux de charcuterie. Non, alors là j'ai rien mis, mais le vin c'est plutôt dans le verre. Bah tiens, en parlant de vin justement.
Quel enchaînement.
La parole à Dominique Hutin qui va nous parler non pas de vin de Haute-Savoie, mais de vin affiné en terre cuite.
On va déguster sur France Inter.
Ah oui, la terre cuite, parce qu'on a formé en début d'émission une promesse, celle de vous emmener vers les nouveaux territoires du goût avec les amphores pour véhicules. Alors accrochez-vous bien, parce que nous allons mettre quelques millénaires entre les origines du vin et notre studio 611. L'émission, elle est dédiée aujourd'hui au reblochon, et on peut faire un petit parallèle, puisque le reblochon est logé dans un moule, et qui va décider de sa forme, forcément. Et bien s'agissant du vin, les différents contenants, vinaires vont avoir une influence tout à fait formidable sur le profil organoleptique du vin final. Je vous propose une petite saga sur les contenants vinaires. Pour comprendre, il faut d'abord passer par la case histoire et pour retrouver les origines, il faut rembobiner jusqu'en moins 6000 avant notre ère, ce qui pose le curseur en Arménie, en Géorgie et l'utilisation de terre cuite pour fabriquer ce qu'on appelait, alors attention, c'est du géorgien, vous connaissez mon accent, les cuivries. Voilà,
ça va.
Vous pouvez écrire à Azazi pour le courrier des auditeurs.
Ils s'en sortent pas si mal.
Voilà. Alors, ces cuivries, ce sont en fait des très gros jars. Il faut imaginer qu'elles contiennent entre 300 et 1000 litres. Elles sont entièrement enterrées dans la terre. Et elles possèdent une ouverture très plate, simplement pour pouvoir recevoir un couvercle qui permettrait une fermeture hermétique. Voilà. Et on les enterre et on les oublie. Ensuite, les Grecs, les Romains aussi ont eu recours à des grandes jarres qu'on appelait des dolia pour vinifier, puis aussi des amphores un peu plus tard pour le stockage, pour le transport. Puis il y a une autre source naturelle qui va prendre le relais, c'est le bois. Et donc ça c'est l'ère du tonneau, une invention qu'on prête parfois aux talents gaulois. Et beaucoup plus tard, au XXe siècle, vont apparaître les grandes cuves béton, ben notamment parce que les guerres ont fauché les hommes, mais elles ont aussi fauché les arbres. Et donc ces cuves béton, elles seront elles-mêmes concurrencées encore plus tard par les cuves en inox, qui sont devenues aujourd'hui une espèce de standard, au final, qu'on voit un petit peu dans toutes les caves, avant que les vignerons, et ça nous ramène au XXIe siècle et dans le studio 611, avant que les vignerons contemporains se réapproprient les vertus de la terre cuite pour en faire le goût de l'époque, et une espèce de mouvement d'une folle modernité. Donc je récapitule, on a eu un âge de terre cuite, un âge de bois, un âge de béton, un âge de fer, et même, accrochez-vous, attention, un âge de peau, avec des peaux de vache, avec les pattes coupées, la queue coupée, tout ça bien cousu, et même, attention, l'anus bouché par un bout de bois pour fermer entièrement ce qui est devenu une outre étanche.
Ça fait très envie.
Ça fait très envie, mais surtout, c'est encore très contemporain au Chili, au XXIe siècle. Voilà comment ça fonctionne. Alors, pour illustrer ce long compagnonnage avec la terre cuite, j'ai versé dans vos verres deux vins qui sont un peu les héritiers de ces vins originels que j'ai tirés de mon carnet de dégustation. C'est le carnet de vigne numéro 61. Il y a 140 vins de 2022 à 2014, si je ne dis pas de bêtises.
Votre carnet de dégustation consultable sur le site de l'émission. 140 vins élevés en terre cuite.
Je vous laisse imaginer la frustration de n'en évoquer que deux vins pendant cette chronique. Surtout que dans ce carnet, vous avez trouvé des très grands noms comme les Jean-Michel Dice, les Stéphane Tissot, Domaine de l'Écu, Thierry Germain, j'en passe. Bref. Pour résumer un petit peu le profil de ces vins-là, des écritures ciselées, des vins frais, toniques, souvent très salins. Et ce caractère très particulier nous dit beaucoup du rapport intime qu'entretient le vin dans le contact direct avec la terre. Des amertumes fines, mais alors attention, des amertumes fines qui vont venir non pas corser le vin, mais le structurer. Donc on a des vins extrêmement constitués d'une part, mais qui sont, comme je le disais, ciselés, qui sont aériens, quasiment cristallins dans leur expression. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est ce que réclame l'époque, au final, de la légèreté, de la fraîcheur, de l'élégance. Donc, ça renouvelle un petit peu l'imaginaire du vin, ça oblige, lorsqu'on goûte ces vins-là, à laisser ses préjugés, ses connaissances, ses repères un petit peu au vestiaire et de déguster l'esprit ouvert. Les vins, par exemple, un jeune vin d'Alsace qui est là, la cuvée MO des Jardins Enchantants, jeune couple vigneron, Léa et Gabriel Willem, c'est du Pinot Gris et du Gewürz. C'est vinifié pour moitié dans un œuf en terre et l'autre moitié dans une cuvrie justement enterrée, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle un vin orange parce qu'on laisse le jus macérer au contact des peaux. Donc, ça lui transfère et goût et arôme et couleur, vous voyez, assez soutenu. Oui. Hein, on peut dire un vrai orange. Et puis un deuxième, alors, ces vins en terre cuite, vous voyez, ces inspirations, ça infuse aussi de manière plus classique. C'est un Bordeaux d'appellation générique qui est proposé là. Alors, je dis générique, mais en même temps, il est logé dans une bouteille de Bourgogne. Donc, on bouscule un peu les repères. C'est le Clos de la Molenie. C'est un simple merlot. Mais c'est l'expression de la gourmandise. Ça, c'est fantastique. Ça coûte 12 euros. C'est Sylvain et Kim Destrieux. Alors, si on veut résumer, on a quand même un certain nombre d'inconvénients qu'on est obligé de citer. Le prix, d'abord le coût des jarres, ça c'est une première chose. Et Paul Fouassier, qui est un des talents de Sancerre, me disait qu'il estimait le surcoût à 6 à 7 euros par litre pour ce type d'élevage, simplement parce que ça demande beaucoup plus de travail avec des vins qui demandent d'être surveillés en permanence. Par contre, les bénéfices, eux, ils sont multiples. On a des évasions gustatives, ça vous l'avez compris.
Ah, oui.
On a beaucoup d'élégance. Et puis, on a une température stable au sein de ces grands contenant. Et donc, on a une forme d'inertie, ça protège énormément les vins. Et d'ailleurs, je crois qu'on est un peu traversé par des questions de réchauffement climatique. Et donc, ces contenants qui gardent les vins au frais et donnent des vins frais peuvent être une partie seulement de la solution. Et puis aussi parce qu'on a au sein de ces contenants-là une espèce de phénomène de vortex où les jus sont tout le temps remis en suspension et en contact intime avec les particules. Donc, ça les enrichit.
Et puis, il y a une micro-oxygénation avec...
Alors, oui, mais elle est micro-nano. Oxygénation, parce que, spécialement lorsqu'elles sont enterrées, évidemment, on essaie de limiter et on limite l'échange avec l'air. Voilà. Un signe, aujourd'hui c'est 12 février, c'est 1935, la mort d'Escoffier, grand cuisinier s'il en est. Et donc ça nous invite peut-être à repenser des accords de table avec ces vins élevés en amphore, parce qu'effectivement ils ont un registre à part. En conclusion, deux lectures, si vous le voulez bien. Skin Contact. De l'égérie des vins oranges, des vins géorgiens, d'Alice.
Skin.
Skin, comme la peau.
C'est ça.
C'est un super livre.
C'est un super livre. Nous
Voyage aux voilà. origines du vin.
C'est pour vous, chers amis.
Bah non, puisqu'elle l'a déjà lu, c'est pour moi.
Elle l'a déjà lu, c'est pour vous. Allez, on fait Merci. Circuler.
Merci.
Vous pourrez le mettre sur eBay ce soir si vous voulez. Tiens, voilà. Et puis un autre, Jean Rosen, qui est directeur du CNR, de recherche, pardon, au CNRS. J'allais le promouvoir un petit peu rapidement. J'ai préfacé son bouquin, s'appelle Faïence et vin sur les contenants vinaires en biscuit. C'est une forme de porcelaine. Et ça, vous le retrouverez aussi sur notre site. Voilà. Carnet de dégustation, 140 vins, les vins en amphore.
Merci. Vous avez tenté un petit accord ou pas avec le reblochon feuilleté, Dominique?
J'ai pas, non, alors, ça pose une question autre qui est un petit peu, qui est assez intéressante. Moi, je vais militer, enregistrer bien cette séquence pour l'eau. C'est la seule fois que vous m'entendrez dire ça. Simplement parce que c'est intéressant d'avoir du vin blanc dans le sens où c'est acide et ça va dégraisser le moelleux que vous évoquiez tout à l'heure, Pierre. Mais en même temps, l'alcool déshydrate. Donc, c'est un appel à en boire plus. Or, l'eau fonctionne très bien. Et mieux encore, le thé noir, qui reste en majorité de l'eau dans sa constitution, et un grand pouvoir désaltérant.
Eh bien, vous nous faites infuser un petit thé noir pour dans un instant, puisque la tartiflette va s'inviter sur le plateau dont on va déguster ce plat emblématique à base de reblochon. Quelles sont les origines de cette spécialité? Et surtout, crème ou pas crème pour la cuisiner, cette spécialité? On vous promet un débat gratiné juste après ça.
Était-ce l'hiver qui coulait de ses yeux? Ce salaud d'hiver, il éteignait le feu qui courait hier encore dans ce corps soudain là figé en bloc de pierre. Tu passais des heures avant entre les marronniers à compter les boutons d'or, à jouer sans arrêt. Quand d'un coup de vent de terre, augure d'hiver, tu t'es recroquevillé en bloc de pierre. Et ce quelque chose dans l'air qui fleurait la fin des beaux jours, ce je ne sais quoi dans l'atmosphère, te faisait mal comme un amour qu'on voit s'éloigner sans rien dire. Et tu restais sans rien dire à fixer le néant comme un aimant. Et c'était pas fait pour aller mieux. T'étais pas encore amoureuse, mais déjà l'air égaré. Tu regardais passer les heures, assise au fond du canapé, rideau tiré, que rien ne t'atteigne, pas même les jours heureux. C'est vrai que la mer est froide et silencieuse, que rien ne rayonne plus sous ton ciel pluvieux. Mais dans les chaumières, quand la nuit tombe et que s'allument les cheminées, les cœurs s'éclairent. On passait des heures ensemble à s'amuser de peu, à crier à ta fenêtre de prendre part à nos jeux. Mais maintenant que la pire des peurs t'a prise de court, comment te dire que chaque jour qui passe est une aubaine à qui le veut. Mais c'était pas des journées joyeuses, mais c'était pas fait pour aller mieux. T'étais pas encore amoureuse, mais déjà l'air égaré. Tu regardais passer les heures, assise au fond du canapé, rideau tiré, que rien ne t'atteigne, pas même les jours heureux.
L'hiver, signé du jeune chanteur-compositeur Voyou, c'est sur France Inter. Et l'hiver, eh bien on le réchauffe, notamment grâce au reblochon. C'est le menu de notre émission.
On va déguster. Sur France Inter.
Le reblochon intéresse nos auditeurs et auditrices, tu m'étonnes. C'est le deuxième fromage de France. Zazie, des questions?
Oui, on a beaucoup de messages. Il y a Sébastien qui demande si les sécheresses à répétition font courir un risque à la production de reblochon.
Important.
Oui. Alors ça, on l'a vu cette année, hein, parce que le fait qu'il n'y ait plus d'herbe verte, ça fait que les vaches ont fait moins de lait. Ça fait aussi que les vaches ont moins bien démarré leur lactation à l'automne pour celles qui veillaient en automne. Et surtout, bah, les gens n'ont pas pu faire de stock, donc doivent acheter du foin, ce qui explique l'augmentation de coût du reblochon et même les difficultés d'approvisionnement qu'on a, quoi.
On nous demande aussi beaucoup, mais ça, on va peut-être le découvrir avec la recette, si on met de la crème ou non dans la particule.
Petit teasing, bah on n'est pas tous d'accord, mais effectivement, c'est une vraie question qui intéresse nos auditeurs. Autre petite question, Pierre. Le bio dans le reblochon, alors c'est vrai qu'on a diffusé un reportage à la ferme du Jalouvre, qui est précisément une ferme biologique, mais le bio est loin d'être la majorité dans la production, même fermière.
Ah oui, non, ils sont très peu de producteurs en bio, et même en offre laitière, il y a une toute petite offre, mais c'est pas le gros du reblochon. Hein.
D'accord. Peut-on manger la croûte du reblochon ou doit-on manger la croûte? C'est une question que se posent aussi nos auditeurs.
Alors, moi je la mange parce que finalement, il y a un petit peu de résistance hein, quand on goûte le reblochon avec sa croûte. C'est une croûte qui est un peu épaisse. Après, ça me choque pas, mais en plus, ça va ramener les arômes un peu sous bois hein, qu'on a sur cette petite moisissure qui pousse dessus.
Le retard de consistance, c'est intéressant si on le fait griller,
par
exemple.
Ça fait un côté bicouche. Alors, en cuisine, toujours la croûte. Hein.
Ouais, toujours la croûte, évidemment. Bah, cuisine, on y vient, on y arrive. Compète de tartiflette. Mais juste avant de cuisiner ce plat, ses origines, qui ne sont pas si lointaines, on peut même parler, Pierre Coulon, d'un coup marketing.
Alors, coup marketing, en fait, tous les repas qu'on mange aujourd'hui au fromage, que ce soit les raclettes, les fondues, les tartiflettes, ça apparaît dans les années 70-80, quand la station de ski débarque. Et alors, il y a deux versions. Ce serait soit un restaurateur de la Clusaz, soit l'AOP Roblo, qui avait un peu trop de stock, qui aurait repris la recette de ce qu'on appelait la pella. La pella, ça veut dire poêle en savoyard. C'était simplement des pommes de terre sautées avec des oignons et du reblochon, ce qui semble être un plat assez classique de paysannerie. Et la tartiflette, bah, du coup, les Françaises et les Français vont la découvrir au Swarovski et ça va devenir un énorme carton. Le problème de la tartiflette, c'est qu'elle va pas protéger sa recette. Donc aujourd'hui, la tartiflette, c'est un univers qu'on trouve en boîte, sur des pizzas, dans des ravioles, dans des préfous, en conserve, avec des doses de reblochon plus ou moins aléatoires. Donc ça, il y a pas mal de choses à dire là-dessus.
Même s'il existe, paraît-il, une tartiflette label rouge ?
La tartiflette label rouge, c'est la seule qui s'engage à mettre 20% de reblochon.
C'est pas énorme quand même,
20%. 20%, c'est ce qu'il y a dans ma tartiflette, là, hein, quand okay. même. Ouais, ouais. C'est un reblochon pour 4, hein, c'est ce qu'on compte, et du coup, ça fait qu'on n'a pas besoin de mettre de crème.
20% du poids total de la tartiflette, c'est pas 20% du fromage utilisé.
Non, 20% du poids total de la tartiflette. Mais là, dans celle que je vous ai ramenée en boîte, que j'ai payée 3€ les 800 grammes, il y a 3%.
Alors, je veux pas faire le snob, hein, mais je ne savais absolument pas que ça existait. Vous nous avez rapporté ça, Carrefour classique, hein, ouais. Allons-y. Tartiflette au reblochon, porc français garanti sans nitrite. On a vraiment affaire à une boîte de conserve, mm-hmm. exactement comme pour certains légumes ou haricots verts.
Après là, tout, c'est pas très glamour. La promesse n'est pas formidable, mais après tout, on a quelque chose de neutre. Est-ce que c'est pas simplement la qualité des ingrédients qui va considérer la qualité du
arôme du naturel, antioxydant, quelque chose de neutre, je suis pas sûr. Alors crème, venons-en justement. Question brutal. Est-ce que la crème est un crime dans la tartiflette ?
Alors moi, avant, j'étais team crème. Très clairement, j'ai toujours fait de la tartiflette au reblochon. Et quand j'ai écrit mon livre, je me suis dit, bah non, quitte à mettre une recette, faut mettre la recette traditionnelle. Donc j'ai pris la recette de l'AOP du reblochon. Et effectivement, maintenant, je m'en passe. Pourquoi ? Parce que la tartiflette, déjà, c'est assez santé. C'était les nutritionnistes de Reebok qui avaient dit que c'était le plat traditionnel français le moins gras et le plus intéressant. Et c'est vrai, quand j'ai fait ma tartiflette ce matin, c'est des pommes de terre, un peu de lardons. Alors moi, je me chauffe pas, là, j'en ai mis 50 grammes, un oignon, pas de matière grasse, qu'on a la matière grasse des lardons, on déglace avec un peu de vin blanc, donc on ramène l'acidité, et ensuite, comme on met beaucoup de reblochon, on a ce truc hyper crémeux. Mmh. Donc, la crème ramènerait pas grand-chose, parce que, à part de rajouter de la matière grasse et de ramener de l'acidité qu'on a déjà avec le vin, finalement, moi maintenant, je suis plus team crème.
Ouais, voilà, la vraie tartiflette de Normandie se fait avec...
oui, c'est ça. Je rejoins, merci Dominique de votre solidarité, parce que il y a évidemment un débat entre nous, moi j'ai eu un petit succès sur les vidéos de France Inter en pratiquant il y a un an ma tartiflette avec beaucoup de crème. Je me cache derrière l'autorité d'un chef 3 étoiles à Megève, Emmanuel Renaud. Alors lui utilise de la crème, je me suis dit je peux y aller quand même. Non, il est vrai que ça apporte du confort et de l'onctuosité. Mais moi c'est vrai que je pratique une recette avec de la crème et les amis qui m'entourent et qui dégustent cette recette ne m'en veulent pas en fait parce que ça marche bien. Mais est-ce que pour autant il faudrait que j'essaye de supprimer la crème ? Je vais essayer de faire un effort.
C'est à tenter parce qu'en fait à la dégustation finalement on n'a pas besoin non plus que ça baigne dans le jus blanc. Je trouve qu'il y a plus de tenue. C'est un peu moins liquide.
Eh ben écoutez, on se le tient pour dit. Vos pommes de terre, évidemment, vous ne les mettez pas dans le plat à gratin cru. Vous les avez préalablement.
Je les ai fait sauter avec des oignons et des lardons.
Quelle pomme de terre ?
J'ai pris pomme de terre à chair ferme, ce que j'ai trouvé hier à 21h.
Donc si on résume, une petite couche de pomme de terre poêlée au fond du plat à gratin.
Ouais.
On y met ensuite les lardons.
Ah non, moi je fais sauter mes pommes de terre avec les lardons.
Avec les lardons, c'est ça, bien sûr.
Les pommes de terre, quand elles sont cuites, je verse dans un plat à gratin, un reblochon pour 4, et hop, au four, un quart d'heure.
Qu'est-ce qu'on en pense autour du plateau ?
Ben oui, c'est
très bien. Est-ce que ça manque de crème ? Dites oui, Dominique.
La question de la température, parce que tout ça, ce petit monde se resolidifie. Est-ce que la crème, justement, n'aide pas à garder quelque chose d'un petit peu plus fluide ?
Alors
question hyperfile, minormande.
Gisèle de Thônes nous dit, vous avez oublié, votre invité a oublié de donner l'origine, pardon, du mot tartiflette.
Ah oui, alors tartif, ça veut dire pomme de terre, je crois.
Ouais. Tartifle veut dire pomme de terre. En patois savoyard, on ne peut rien. On peut pas le coller, Pierre Coulon. En matière
non, de j'ai eu peur. Mais par contre, ce qui est important sur la tartiflette, c'est que là, on l'a fait avec un vrai reblochon. Et oui. Que, en fait, dans les rayons des grandes surfaces, on va trouver plein de choses qui ne sont pas du reblochon.
C'est ça, parce que j'ai cette question. Ça, c'est Jean-François qui nous dit « Pourquoi une telle prolifération d'étiquettes sur plat cuisiné égale tartiflette dans les commerces, mentionnant tartiflette au reblochon, alors qu'une tartiflette est forcément à base de reblochon ? Quel pléonasme ! C'est comme si on disait « clafoutis ou cerise ». Il n'a pas tort. Alors... Sauf qu'effectivement, il y a des avatars fromagers qui ont tendance à remplacer le reblochon dans la tartiflette.
Et qui sont deux fois moins chers en rayon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, derrière la tartiflette, vous n'avez pas obligatoirement du reblochon. Vous pouvez avoir ces fameux fromages à tartiflette, alors qui sont produits soit par l'Hermitage, c'est une grosse firme dans les Vosges qui est spécialisée dans le Munster, soit par Lactalis dans la Manche, et qui sont à 3 euros pièce. Je vous en ai mis en dégustation.
Alors allons-y, Zazie, s'il vous plaît, petit commentaire de dégustation.
Déjà, il ressemble pas au reblochon, il n'a pas la même croûte, il fait plus industriel.
Il a aussi.
Il est pas coulant du tout.
Il a des stries sur la croûte.
Il y a une quasi absence de croûte par ailleurs. C'est un revêtement de surface.
Il y a eu surtout une quasi absence de goût et c'est pas du tout pour. Ça aurait été bon, on l'aurait dit.
C'est pas pour les tracher, mais en fait, mais... ça a goût de Babybel. C'est
très fade.
Mais le Babybel, il y a au moins une texture.
Oui, c'est vrai, qu'un peu drôle,
confortable, un peu drôle. Là, c'est vraiment électrocardiogramme super plat.
C'est des fromages, c'est pas la même chose. C'est à base de lait pasteurisé, alors que le reblochon est au lait cru. C'est des fromages ça qui ont une dizaine de jours, qui sont très très boostés en ferment pour faire du fil, pour faire de la fonte. Et alors surtout, ça vient pas du tout des zones du reblochon, quoi. Faire une tartiflette au reblochon en achetant un reblochon fermier chez le crémier, ça revient à 5 euros par personne. C'est moins cher qu'une raclette, c'est moins cher qu'une fondue. Alors c'est vrai que ces fromages sont pas si chers que ça, mais dans ce cas-là, autant utiliser un autre fromage plutôt qu'utiliser ça.
Le fromage à tartiflette, on fuit évidemment ces créations industrielles au rayon frais des supermarchés, c'est tout sauf avec un ancrage dans le terroir, et c'est une concurrence totalement inutile en fait à notre reblochon qui se porte très bien lui-même. Il y a des problèmes de ressources en termes de reblochon, est-ce qu'il y a des problèmes de...
D'approvisionnement cette année, on sent qu'il y a quand même eu un effet sécheresse, et donc il y en a moins, et il est un peu plus cher aussi que l'année dernière.
Allez, un reportage dans le bocage au cul des vaches pour percer notamment la question du prix du lait bio. C'est la chronique de Zazie Tavitian.
On va déguster. Sur France Inter.
Zazie, vous êtes allée à la rencontre de productrices de lait, mais un peu plus loin de la région du Reblochon. On n'est pas vraiment dans les Alpes ou en Haute-Savoie.
Oui, je suis allée légèrement plus au nord et plus à l'ouest, à L'Aigle, dans l'Orne, en Normandie. C'est plutôt la région du Camembert que vous connaissez bien, je crois, Pierre.
Attention à ce que vous allez dire. Vous êtes sous surveillance.
Oui, il y a des Normands, là.
Alors, lors de mon dernier passage en Normandie, des agriculteurs m'avaient parlé de la baisse d'attractivité du bio, notamment dans certains secteurs comme le lait. Moi, je suis allée rencontrer Lucie Clouard et Léopoldine Després, qui ont repris, il y a un peu moins d'un an, la ferme laitière bio des parents de Lucie, la GAEC Châtelet-les-Vaches. Je suis arrivée à 11h, elles étaient réveillées depuis bien longtemps, car la première traite de la journée est à 6h20. J'ai attrapé mon micro, j'ai enfilé des bottes, et je leur ai demandé de me faire faire le tour de la ferme.
On a 94 hectares en tout ? Une quinzaine d'hectares de culture et tout le reste qui est en prairie, quoi. Tout est assez groupé, donc en fait les vaches peuvent aller pâturer à peu près partout. Donc là on voit le chemin et puis les prairies à droite, à gauche, en face. Et donc elles pâturent à partir du mois de mars, elles retournent à l'herbe à peu près. Puis après, à l'automne, elles rentrent en bâtiment en décembre, quoi. Après, selon la météo. Le cahier des charges encourage un maximum de pâturage et encourage aussi une autonomie alimentaire. Donc en fait, les deux vont ensemble. Pour être autonome, il faut pouvoir pâturer l'herbe qu'on a. Et il faut que les vaches, pour le bien-être animal, aient un accès aux pâtures. Donc en fait, ces trois éléments font que dans le cahier des charges bio, on pâture au maximum, quoi. Et donc ça contribue aussi à la qualité du lait qui va être produit, c'est-à-dire que là, c'est des prairies qui sont à flore diversifiée, donc avec plusieurs espèces, et donc du coup, ça se ressent aussi dans la qualité du lait, quoi. Et dans le goût que le lait va avoir, la matière grasse, la matière protéique, etc.
Le lait qui est issu de la traite, il va où ?
Eh bien nous, on est collecté par Biolait, donc un groupement de producteurs qui regroupe, si je ne me trompe pas, Léo, 1400 producteurs à peu près. Le laitier passe tous les trois jours à la ferme.
Et après, vous savez à quoi sert le lait que vous produisez ici ?
Eh bien, nous, il doit partir en Seine-Maritime. Souvent. Chez Danone. Voilà.
Alors, ce qui est intéressant, et c'est ce que me racontait Monique, la mère de Lucie, c'est que cette ferme, elle a connu trois générations. Elle retrace aussi toute une histoire de l'agriculture française. Il y avait les grands-parents, qui, après la guerre, étaient plutôt dans un modèle productiviste, avec beaucoup de vaches et une agriculture conventionnelle. C'était d'ailleurs à cette époque le modèle qui était valorisé par l'État pour nourrir la population française. Et puis, dans les années 80, ce sont Monique et Dominique qui se sont installés en essayant d'avoir un modèle plus autonome, un plus petit troupeau, une alimentation produite sur la ferme, moins de produits phyto. Ils se sont mis à vendre de l'huile de colza aussi et sont passés en bio en 2008. Et enfin, Lucie et Léopoldine ont ajouté au lait et à l'huile la culture du blé pour faire de la farine et bientôt du pain, ce qui va leur permettre de se diversifier encore plus, car depuis un an, les chiffres de vente du lait bio et le prix d'achat diminuent. Moi, je leur ai demandé si elles savaient à quoi cela était lié.
Ça, c'est le marché qui fait qu'aujourd'hui, la consommation en produits bio diminue. Les chiffres sont là, que la production de lait bio, depuis quelques années, a augmenté. Ça crée des tensions.
Le prix conventionnel, en ce moment, le lait est acheté sur les fermes en moyenne à 50 centimes du litre. Là, sur la ferme, on est à 42 centimes du litre. Donc, il y a quand même une sacrée différence, sachant qu'on produit sur la ferme 400 000 litres par an. Quelques centimes multipliés par le volume, ça fait... Ça fait beaucoup, quoi.
Est-ce que vous arrivez à vous dégager deux salaires ?
Oui, oui, on arrive à se dégager. C'est inférieur au SMIC.
Oui, faut pas ramener à l'heure.
Parce qu'en soi, c'est inférieur au SMIC, mais pas 35 heures. On fait x2. Voilà.
Sur la durabilité du métier, il faut pouvoir avoir des conditions de revenus et de vie beaucoup plus agréables, quoi. Si on veut encourager les installations, voilà, faut que ça se rééquilibre un peu.
Zazie, j'ai quand même l'impression, quand je suis au supermarché, je sais pas si Pierre Coulon est d'accord avec moi, que le litre de lait bio reste quand même plus cher que le lait conventionnel.
Ben, c'est aussi le problème. Comment est répercuté le prix du lait par les intermédiaires et notamment les grandes surfaces? Les deux associés ont bien sûr pensé à comment valoriser le prix de leur lait en direct, mais ça demande du travail en plus pour transformer le produit, mettre en place une filière de vente. Et s'il y a bien quelque chose qui manque souvent aux agriculteurs, ben c'est le temps. Tout ça est assez complexe car au-delà des prises de décision individuelles, il s'agit aussi de volonté politique agricole nationale et européenne, notamment décidée par la PAC, la politique agricole commune qui est votée tous les 5 ans et qui, selon les agricultrice ne défend pas assez une agriculture bio et les petites exploitations.
Comment vous réagissez, Pierre Coulon ? Vous connaissez bien évidemment ce milieu, vous en êtes partie intégrante. Cette espèce de désaffection que l'on constate par rapport au bio et notamment le fait que parfois on assiste à des déconversions, des gens qui se sont convertis au bio,
et qui
finalement reviennent au conventionnel parce qu'ils n'en trouvent pas forcément les intérêts.
Bio et pas que bio, parce qu'en fait aujourd'hui, et ça c'est très inquiétant, on a une baisse de volume sur toute la qualité. Alors est-ce que c'est un effet pouvoir d'achat ? Est-ce que c'est un effet discours sur le pouvoir d'achat aussi ? On le voit, et nous on le voit aussi en tant que petits commerçants, les chiffres d'affaires sont en baisse, donc ça a une répercussion aussi sur la filière et sur l'amont. Moi j'achète moins de lait que j'en achetais avant, très clairement. Donc du coup, cette histoire de prix du lait aujourd'hui et de manque de demande, c'est juste qu'on sort de 2 ans où quand les gens, pendant le Covid, étaient chez eux à cuisiner et avaient moins de dépenses à côté, ils ont consommé à fond ces produits-là. Et aujourd'hui, on a effectivement une décrue totale de la qualité qui est triste parce que c'est les plus chouettes systèmes aussi qu'on est en train de mettre en difficulté aujourd'hui, là où le discount, par contre, lui cartonne.
Il y aurait décidément effectivement beaucoup à dire. On a déjà consacré des émissions à ce sujet, on en consacrera certainement d'autres. Zazie, je vois que le temps passe, mais que vous avez devant vous quand même une très belle part de tarte aux pommes, mais une tarte aux pommes assez singulière.
Oui, c'est une tarte aux pommes à la peau de lait. C'est ce que m'avait préparé Monique le midi de mon reportage. Et pour moi, cette recette, c'est vraiment l'illustration de cette histoire familiale, parce qu'elle vient de la mère de Monique, Marie-Jo. La pâte est faite avec la peau du lait, que Dominique se fait bouillir tous les matins. La farine, c'est la farine qui est produite sur la ferme et les pommes viennent du jardin. Donc vous avez vraiment une tarte 100% locale.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?
Super bon.
Dernière question très importante.
Ouais.
Reblochon et saison, car ce fromage est visiblement enfermé dans une très forte saisonnalité, Pierre, et la filière a tendance à s'en plaindre.
Ah oui, alors totalement, c'est vrai que le reblochon le cantonne un peu trop à être un fromage à tartiflette, et ça m'a fait penser à ça, parce que là, je vous ai mis devant vous un petit morceau de reblochon avec un pickle de cerise.
Oh là là, et alors c'est... racontez, parce que ça, ce pickle, je l'ai goûté.
Ouais.
Il est l'œuvre d'un sacré garçon dans le 18e,
Antonin
à Pont-aux-Baguettes.
Ouais,
Antonin Girard.
Qui présente ça, lui, avec un autre fromage de Savoie, et dans la démarche de chef, c'est de dire, c'est rigolo de faire goûter des produits qui ne sont pas la même saison. Or, c'est oublier, en fait, que le reblochon est super bon aussi au temps des cerises, avec des cerises fraîches, même si là, c'est très malin, puis ça marche bien, je trouve l'accord avec les deux. Le reblochon, on gagne un peu plus d'argent quand on en fait, donc il faut encourager sa consommation quand même en été. Et en été, qu'est-ce que c'est bon, un petit reblochon
Mais on peut même dire, a priori, que vu les pâturages, les herbes bien grasses de pâturage que consomment, les tarines, les abondances...
Et les Montbéliardes, les trois
races bovines autorisé dans la production de reblochon, qu'a priori, ce fromage est meilleur au beau jour.
Meilleur, je sais pas, mais en tout cas, il sera plus aromatique. Les fromages au lait cru en été, souvent, sont un peu plus typés.
C'est ça. La recette, d'ailleurs, de ce super pickles de cerises, que l'on peut pratiquer, justement, quand on va venir au mois de mai, au mois de juin, le temps des cerises, elle est sur franceinter.fr, à la page On va déguster, et elle est signée Antonin Girard, qui tient un sacré lieu, Pont-aux-Baguettes, un comptoir musical et culinaire, Paris 18e. On est dans quelle rue ?
Rue Eugène-Sue.
C'est ça, rue Jatul. On va aller y boire un coup ensemble en consommant du reblochon avec ses pickles de cerise. Un immense merci, Pierre Coulon. Rappelez-nous les deux adresses que vous tenez à Paris pour de bons fromages et des produits laitiers.
Alors, le 74 rue des Poissonniers, le 125 rue de Crimée.
Absolument. Et le bon savoir du fromage chez First Edition, c'est votre encyclopédie. Elle est indispensable pour tous les amoureux de fromage. La semaine prochaine, plongez dans l'univers des soupes avec notre historien Loïc Bienassi et la créatrice culinaire Perla Servant-Schreiber. Et puis Mulhousien, Mulhousienne, je suis très heureux de vous annoncer ma venue à Mulhouse ce mardi pour une rencontre dédicace. Ça se passera à la librairie 47 degrés Nord à 20h. J'en suis absolument ravi. Merci Zazie, merci Dominique.
Merci, bon dimanche.
J'ai envie de vous dire à la prochaine.
Par exemple.
Vive les vents en amphore.
Par exemple.
À très bientôt et à dimanche prochain si vous avez encore faim.